Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous terminons notre seconde série concernant la démonologie, car j'ai fait une série il y a quelques années de cela que vous pouvez trouver sur Internet, 3xW. Bible explique en un seul mot.ch. Et donc, c'est une série que j'ai donnée très très sérieuse, et ceci est simplement un complément pour terminer la série. Eh bien, nous arrivons dans cette série de terminale à l'étude numéro 16, et le titre sera Un mot aux satanistes, et cela avec amour. Je parle donc à ceux qui sont encore au service de Satan. Je vous parle parce que je vous aime en Jésus-Christ. Mais ce qui est plus important, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, vous aime bien plus encore. Peut-être ne connaissez-vous pas le nom de votre maître. Peut-être l'appelez-vous le maître. Peut-être encore employez-vous d'autres noms. Cependant, le maître que vous servez est cruel. Il est cruel. Il vous impose des douleurs, des souffrances et des sacrifices pour le servir et pour que vous obteniez de lui la puissance. Je veux vous dire qu'il y a un autre Dieu. C'est un Dieu qui peut être servi avec amour et avec pureté. Ce Dieu véritable appelle votre maître Satan. Satan n'est pas, comme vous croyez, le Dieu qu'il prétend être. Satan est un menteur. Il n'est qu'une créature et pas le Créateur. Je vous prie de prendre la peine de réfléchir un moment. Combien de fois avez-vous vu Satan et ses démons tromper leurs serviteurs? Pourquoi les démons exigent-ils constamment que vous répandiez le sang, en particulier votre propre sang? Satan, ou l'un quelconque de ces démons, a-t-il versé la moindre goutte de sang pour vous? Vous savez bien que non. Dites-moi, pourquoi Satan, votre maître, exige-t-il que vous fassiez les choses qui sont les plus horribles à faire par des êtres humains? Pourquoi exige-t-il la vie de vos précieux enfants? Pourquoi exige-t-il que des petits-enfants sans défense soient torturés et violés? Pourquoi Satan vous affirme-t-il que c'est le seul moyen d'obtenir la puissance? Pourquoi vous êtes-vous donné la peine de réfléchir à cela? Oui, je voudrais vous demander vraiment sérieusement de vous donner la peine de réfléchir un peu à ce problème. La plupart d'entre vous n'avez jamais connu l'amour véritable. Vous ne savez pas ce que c'est le vrai amour. Combien mon cœur languit de vous dire que le véritable amour existe effectivement. Qu'est-ce que l'amour véritable? En voici la réponse. Le Saint-Livre, la Sainte Bible nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Saint Jean, chapitre 15, verset 13. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour vous sauver et vous racheter. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Combien Jésus est différent de Satan. Satan exige que vous versiez le sang et que vous fassiez des sacrifices pour lui. Alors que Jésus s'est sacrifié lui-même pour nous. Ce Jésus, qui n'est autre que le véritable Dieu créateur, a choisi de descendre sur cette terre et de s'incarner lui-même dans un corps de chair. Il est né d'une vierge et a marché sur cette terre en tant qu'homme, mais sans aucun péché. Il est mort sur une croix cruelle et il a pris sur lui le châtiment qui devait tomber sur lui. C'est-à-dire, le châtiment est tombé sur lui qui du reste aurait dû être incombé, donné à nous. Alors je répète cette phrase pour qu'elle ne soit pas mal comprise. Jésus est mort sur une croix cruelle et terrible. Il a pris sur lui-même tout le châtiment, tous les péchés qui devaient tomber sur nous. Mais la mort, elle n'a pas pu le retenir parce qu'il est Dieu lui-même. Il n'est pas enchaîné en enfer. Il est vivant et il est actuellement assis dans les cieux à la droite de Dieu le Père. La Bible nous dit que après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous pouvez trouver cela dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 3. Ô chers amis, je vous supplie de continuer à m'écouter encore un peu. Vous pouvez sortir du satanisme et vous pouvez vivre, sœur Courage, et à tant d'autres qui se sont aujourd'hui éloignés de ce péché, sont devenus des témoins vivants de Jésus-Christ. Jésus est plus puissant que Satan. C'est pour cette raison que tous ceux qui sont sortis du satanisme et ont pu rester vivants. Quel maître impitoyable vous servez. Combien de fois, je vous le demande, avez-vous vu des serviteurs de Satan mis à mort parce qu'ils avaient échoué, parce qu'ils n'ont pas pu tout faire comme on le leur a demandé, ou parce qu'ils avaient fait une petite faute? Voyez-vous, moi, je sers un maître qui ne tue pas ses serviteurs quand ils échouent. Et combien de fois j'ai vraiment échoué, et j'en ai honte de vous le dire et de le reconnaître, mais je me suis repenti. Donc, Jésus est mort à ma place. Il a pris sur lui le châtiment qui me revenait. Voyez-vous, Satan ne ferait jamais une chose pareille. Savez-vous que le prix est le juste châtiment de chaque péché que vous avez commis qu'ils ont été pleinement payés. Il y a plus de 2000 ans, Jésus a payé cela sur la croix. Tout ce que vous avez fait peut être effacé. Et c'est une vraie vérité et une réalité. Toute votre amertume, votre haine, votre jalousie, votre crainte, votre méchanceté, tout votre orgueil peuvent être entièrement effacés et remplacés par la douceur, par l'amour, la paix, la compassion et la pureté. Tout cela est possible si seulement vous acceptez d'arrêter de servir Satan pour faire de Jésus-Christ votre Seigneur, votre Sauveur et votre Maître. Je vous en prie, écoutez-moi. Pourquoi voulez-vous vivre encore dans une telle servitude? Pourquoi marcher chaque jour dans la crainte? Vous êtes dans des liens tellement terribles. Pour conserver votre puissance, vous devez constamment faire des sacrifices et vous devez accomplir d'incessantes cérémonies. Vous n'osez pas manquer d'assister à une fête satanique car vous serez sévèrement puni. Parfois, vous n'avez rien fait de mal et vous êtes pourtant puni. Presque tous parmi vous souffrent d'une maladie démoniaque ou d'une autre. Pourquoi cela? Je vous en prie, réfléchissez. Pourquoi donc les démons vous punissent-ils et vous tourmentent-ils tellement souvent s'il est vrai qu'ils prennent soi-disant soin de vous comme ils le prétendent? Oh, combien cela est différent de servir mon maître Jésus-Christ. Voici du reste ce que mon maître nous dit. Ouvrez votre Nouveau Testament. Au début, dans Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. La vérité, voyez-vous, c'est que Satan et les démons haïssent tous les êtres humains. Ils savent que Jésus est réellement vivant. Ils savent que Jésus offre le pardon des péchés et la vie éternelle. Leur objectif est d'empêcher le plus de monde possible d'accepter Christ. Ils veulent que le plus d'hommes possible souffrent pendant toute l'éternité en enfer. Satan vous haït. Satan est un menteur. Les promesses qu'il vous fait sont des mensonges. Vous a-t-il promis la puissance? Il vous a promis la richesse et la gloire. Mais voici ce que mon maître nous dit. Encore dans le Nouveau Testament, Saint Marc, chapitre 8, versets 36 et 37. Il est dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Saint Marcus, Marc, chapitre 8, versets 36 et 37. Chers amis, vous pouvez obtenir des richesses, mais vous n'aurez pas forcément la paix ni la vie éternelle. Le seul moyen d'avoir l'amour véritable, la paix véritable et la vie éternelle, c'est de passer par Jésus-Christ. Il est dit dans Saint Jean chapitre 14 verset 6 que Jésus vous dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». C'est Jésus qui vous dit cela. Ensuite il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Je vous supplie donc de vous agenouiller et de demander à Jésus de devenir votre Seigneur, votre Sauveur et Maître. Jésus vous dit dans die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un maintenant entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous l'avez certainement compris depuis longtemps, quand Dieu parle de l'homme, la femme est comprise automatiquement, qu'il n'y ait là pas de malentendu, s'il vous plaît. Alors je pourrais dire le verset un peu différemment. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, nous dit Jésus, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Alors à la place de dire lui, je dirais, j'entrerai chez elle, je souperai avec elle et elle avec moi. Alléluia. Chers amis, ne voulez-vous pas ouvrir la porte de votre cœur? Comment le faire? Eh bien, tout simplement, agenouillez-vous simplement là où vous vous trouvez en ce moment. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller parce que vous avez, comme moi, 90 ans et terriblement mal au dos, vous pouvez le faire assis simplement et demander à Jésus de vous pardonner et de vous purifier de tous vos péchés. Demandez-lui de devenir votre Seigneur et votre Maître, et ensuite demandez au Seigneur d'envoyer en vous son précieux Saint-Esprit, the Holy Ghost. Si vous avez fait de Jésus votre Seigneur, dites ensuite à l'ennemi, à Satan et à tous ses démons que vous ne les servirez plus jamais. Commandez-leur, au nom de Jésus-Christ, de sortir de vous, de s'en aller pour toujours de votre vie. Il existe des hommes et des femmes qui vous aiment, oh oui, qui sont de véritables servantes et serviteurs de Jésus-Christ et qui vous aideront. Priez et demandez au Seigneur de vous les faire rencontrer. Voulez-vous accepter Jésus aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard? N'oubliez pas que je prie pour vous, vraiment, très sérieusement, et que beaucoup d'autres prient également pour vous. Je prie pour vous du reste maintenant. Oui, maintenant. Et nous allons le faire ensemble. Père Céleste bien-aimé, je me présente aujourd'hui devant ton trône, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je me présente devant ton trône pour te demander chacune des précieuses âmes qui sont prises dans les griffes cruelles de Satan. Père Céleste, je te demande de lier les démons afin que chacune de ces personnes puisse avoir au moins une occasion d'entendre parler de Jésus et de l'accepter. Ô Dieu mon Père, je te prie pour chacun de ceux qui ont accepté Jésus maintenant. Je te demande d'envoyer tes anges pour les entourer et pour les protéger. Je te prie de les guider vers des chrétiens véritables qui pourront les aider. Père, au nom de Jésus, je me présente aussi devant ton trône pour contrer les projets de Satan concernant ceux qui sortent du satanisme pour se tourner vers toi. Je te demande de ne pas permettre à Satan de sacrifier ces personnes, ni de les écraser. Ô Dieu, mon Père, je te demande que chaque âme sortant du satanisme puisse être à son tour formée pour faire sortir du satanisme beaucoup d'autres âmes. Oui, pour les faire entrer dans le merveilleux royaume de Jésus-Christ pour l'éternité. Père Céleste, je te remercie et je te loue pour tout cela dans le saint nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, est-il dit, eh bien Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 8 à 9. Je ne soulignerai jamais assez l'importance d'avoir nos comptes en règle avec Dieu. Ne permettez à aucun péché qui n'a pas été confessé de s'installer dans votre vie. Rien ne détruit plus vite notre relation avec le Seigneur que un péché qui n'a jamais été confessé. Examinez donc l'état de votre esprit et voyez où vous en êtes maintenant. Beaucoup n'y pensent jamais. Ils ne font pas du tout attention à leur propre cœur. Ils ne savent jamais où ils en sont dans leur vie spirituelle, s'ils gagnent du terrain ou s'ils en perdent, s'ils portent du fruit ou s'ils restent stériles. Oh, détournez votre attention, s'il vous plaît, de toutes les autres choses. Pour vous occuper de celle-ci, faites-en une affaire sérieuse. Ne vous dépêchez et ne vous hâtez pas trop, mais examinez à fond, vraiment à fond, tout l'état de votre cœur et voyez où vous en êtes maintenant. Si vous marchez chaque jour avec Dieu ou avec l'ennemi, si votre maître est le prince des ténèbres ou si c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et pour tout cela, vous devez être décidé, vraiment décidé, à examiner vos péchés. L'examen de vous-même, cela consiste à regarder votre propre vie, à considérer votre action ou vos actions, à vous rappeler le passé pour en connaître la véritable nature. Examinez donc bien votre passé. Considérez vos péchés un à un. Ne vous contentez pas de jeter simplement un rapide coup d'œil sur votre vie et de reconnaître qu'elle est remplie de péchés et de vous présenter devant Dieu en faisant une sorte de confession générale. Non, 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 ce n'est pas cela qu'il faut faire. Vous devez examiner vos péchés un à un. Prenez une plume, un crayon, un stylo et du papier et notez-les à mesure que vous vous les rappelez. Faites donc ce compte aussi soigneusement qu'un comptable passe en revue tous ses livres de comptes. Et chaque fois que vous vous rappelez un péché, eh bien, ajoutez-le à votre liste. Car, je vous le répète, des confessions générales de vos péchés ne serviront absolument à rien. Vos péchés ont été commis, si je me souviens bien, concernant les miens, un à un, avec tout le soin que vous pouvez y apporter, vous devez en faire la revue et vous en repentir un à un. Quelle sorte de péché y a-t-il de commission? Premièrement, il y a les biens matériels. Quelle est votre attitude envers les biens matériels? Je vous le demande. Les mettez-vous avant Dieu et avant votre prochain? Pensez-vous que vous pouvez faire ce que vous voulez de ces biens matériels? Êtes-vous prêt à accepter de tout perdre pour le Seigneur? Sinon, vous avez besoin de confesser cela comme étant un péché. Deuxièmement, il y a l'orgueil. Combien de fois avez-vous manifesté de la vanité en ce qui concerne votre apparence extérieure? Combien de fois avez-vous été blessé parce que les autres n'avaient pas fait attention à vous? Combien de fois avez-vous fait quelque chose pour attirer l'attention sur vous? Regardez-vous les autres de haut en les considérant comme étant beaucoup moins élevés que vous? Eh bien, tout ceci, croyez-moi, c'est un péché. Troisièmement, nous avons l'envie. Combien de fois avez-vous envié les autres, leur aspect extérieur, leur bien matériel, ou même leur position et leur fonction dans le corps de Christ? Combien de fois avez-vous parlé des défauts des autres, ou avez-vous insisté sur ces défauts pour vous mettre vous en valeur? Eh bien, notez tout cela, car ça aussi, c'est un péché. Quatrièmement, il y a l'esprit de critique. Si l'on critique les autres, cela permet à une racine d'amertume, puis à une racine de haine, de pousser en vous, de se développer. Voyez-vous, l'amertume et la haine, cela vous détruira certainement. Critiquez-vous les autres, eh bien cela aussi est un péché. Cinquièmement, nous avons la calomnie. Oh là là! Avez-vous jamais répandu des commérages? Le Seigneur haït la calomnie. Combien de fois avez-vous parlé des défauts des autres derrière leur dos? Que ces défauts aient été réels ou simplement imaginaires? J'aimerais vous parler ce qui m'est arrivé il y a 42 ans. une personne qui faisait pourtant partie d'une église chrétienne pour me détruire et pour m'empêcher de pouvoir faire de l'évangélisation, a raconté partout que j'avais été en prison, avez-vous entendu ? Que j'avais été en prison pendant 17 ans pour des choses horribles sur le plan sexuel. Et croyez-moi, cela a été un calvaire pour moi. J'ai même pensé à un moment donné de me suicider. Croyez-moi, s'il vous plaît, évitez tout ce qui est la calomnie. Évitez cela, je vous en supplie. Sixièmement, nous avons le mensonge. Eh bien, mentir, c'est tromper délibérément. Examinez votre vie de tous les jours. Combien de fois mentez-vous et traitez-vous à la légère ce mensonge en le considérant comme étant un simple petit mensonge pieux? On dit maintenant, oh, ça a été un petit mensonge pieux, un mensonge religieux. Pourquoi pas? Or, tout mensonge est carrément considéré comme un péché. Septièmement, il y a l'hypocrisie. Combien de fois avez-vous confessé des péchés que vous n'aviez pas réellement l'intention d'abandonner ou de même jamais abandonner? Combien de fois avez-vous prétendu être ce que vous n'étiez pas vraiment? Huitièmement, il y a le fait d'avoir un mauvais caractère. Eh bien, les Saintes Écritures disent, si vous vous mettez en colère, eh bien, ne le faites pas. En tant que chrétien véritable, nous devons nous discipliner nous-mêmes. Je répète parce que ce mot ne plaît pas à certains, même chrétiens, c'est de nous discipliner. Et oui, je dois le faire, croyez-moi, souvent. Et neuvièmement, il y a le fait d'empêcher les autres d'être utiles. C'est ce qui m'était arrivé autrefois par la calomnie. Avez-vous affaibli quelqu'un par vos critiques de telle sorte qu'il a peur à présent de marcher par la foi et d'agir comme Dieu le veut? Est-ce que vous vous plaignez de votre sort? Faites-vous perdre leur temps aux autres en vous plaignant de vos propres problèmes? Faites-vous perdre son temps à votre pasteur en exigeant constamment qu'il vous écoute et qu'il vous conseille pendant qu'il pourrait faire autre chose, s'occuper de centaines de choses plus importantes de sa communauté? Eh bien, tout cela est un péché. Écoutez ce que nous dit les proverbes, ça se trouve dans l'Ancien Testament, tout près des psaumes. Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Il y a six choses que haït l'Éternel. Six. Et même, il y en a sept qu'il a en horreur. Ce sont les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, des calomnies, et celui qui excite des querelles entre frères et sœurs. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19, j'ai pris cela dans ma version allemande, mais c'est pareil dans votre version française. Chers amis, il est dit dans le dernier livre de votre Bible, dans Die Offenbarung, dans Apocalypse chapitre 21, versets 7 et 8, que celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu. Et il sera mon fils et ma fille. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, eh bien leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, versets 7 et 8. Écoutez bien la liste des péchés mentionnés dans ces quelques versets. Nous avons le mensonge, l'orgueil, verser le sang innocent, les faux témoignages, semer la discorde parmi les frères et sœurs, le meurtre, l'occultisme, l'immoralité sexuelle, l'incrédulité, la lâcheté, et la crainte. Avez-vous pratiqué l'une de ces choses-là? Eh bien, notez-les sur votre liste de péchés et confessez ces péchés. Ensuite, examinez une seconde catégorie de péchés. Ça, ce sont les péchés que nous commettons par omission. On les oublie volontiers. Premièrement, il y a l'ingratitude. Combien de fois Dieu vous est-il venu en aide sans que vous l'avez même jamais remercié? Oui, c'est vrai. Prenez-vous un repas sans d'abord prendre le temps de remercier sincèrement le Seigneur pour ce qu'il vous donne. Vous le faites peut-être jamais. Eh bien, ce ne serait pas une grosse erreur de le faire. Deuxièmement, il y a le manque d'amour pour Dieu. Si vous aimez quelqu'un, vous lui parlez et vous passez du temps avec lui, non? Avez-vous négligé d'aimer Dieu, votre Père céleste? Ça, c'est certainement un péché. Troisièmement, il y a la négligence de la Sainte Bible. Notez tous les moments où, pendant des jours, peut-être même des semaines, si ce n'est pas des mois, que vous n'avez plus lu la sainte parole de Dieu. Nous devons lire la Bible dans une attitude telle que nous sommes disposés à obéir immédiatement, sans force, à tout commandement que nous pouvons y découvrir. Quatrièmement, il y a la négligence de la prière. Combien de fois avez-vous évité de prier seul ou en famille? Nous offensons profondément Dieu en ne priant pas. Ça, c'est une réalité. Pour terminer ces études, On m'a demandé si je pouvais citer quelques fêtes sataniques. Écoutez bien. Beaucoup de questions m'ont été posées par des chrétiens désireux de connaître quelles étaient les fêtes sataniques. Ce sont les jours où les satanistes accomplissent certains rites et offrent des sacrifices. Il est extrêmement important que partout les chrétiens commencent à se présenter devant le trône de Dieu pour lui demander d'empêcher les sacrifices que Satan veut accomplir. Je vous invite donc vivement à prier avec ferveur pour demander à notre Seigneur d'arrêter les sacrifices humains et d'avoir aussi compassion des animaux qui sont sacrifiés en leur permettant de mourir avant d'être aussi horriblement torturés. Les prières des chrétiens sont efficaces. J'ai entendu bien souvent des témoignages qui ont été donnés par des personnes qui étaient sorties du satanisme et qui m'ont raconté comment certains sacrifices humains avaient été interrompus. Écoutez la suite. Il n'est pas rare qu'un groupe de satanistes se réunissent autour d'un autel pour offrir un sacrifice humain et que voilà soudain un brillant faisceau de lumière semble venir de nulle part, illumine entièrement l'autel et ses environs. Lorsque ceci se produit, la victime n'est pas sacrifiée et les satanistes fuient. Ils partent de l'endroit. Je connais un certain nombre de personnes qui ont été tellement secouées par l'apparition de ce faisceau de lumière intense qu'elles ont commencé à voir s'il n'y avait pas un autre Dieu que Satan et qui ont fini par accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Les fêtes sataniques sont programmées à des jours différents selon la région du monde où l'on se trouve. Premièrement, chaque pleine lune, dans de nombreux groupes, on offre des sacrifices chaque nuit de pleine lune. Et c'est au moment de la pleine lune que les démons donnent aux satanistes le maximum de puissance. Deuxièmement, nous avons Halloween, NDT. Cela correspond en France à la fête des morts. C'est le lendemain de la Toussaint. La plus grande fête de l'année, c'est donc la fête de Halloween. Les satanistes considèrent qu'il s'agit de l'anniversaire de Satan. Cette fête est souvent appelée la fête des moissons. Les cérémonies et les sacrifices prévus pour célébrer cette époque de l'année ne se déroulent pas seulement au cours de la nuit de Halloween, mais s'étale pendant toute la période du 15 octobre au 15 novembre. Troisièmement, il y a la Pâque et Noël. Les satanistes profanent chacune des fêtes chrétiennes. À Noël, ce sont le plus souvent de très jeunes garçons qui sont carrément sacrifiés pour se moquer de Jésus-Christ. À Pâques, et tout particulièrement le mercredi des cendres, ce sont de jeunes hommes qui sont sacrifiés. Quatrièmement, vous avez les solstices. les satanistes célèbrent chaque solstice de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Vous trouverez les dates de ces solstices sur la plupart des calendriers. Et pour terminer notre série d'études, nous avons cinquièmement le Nouvel An. Des sacrifices sont accomplis pendant toute la nuit de la Saint-Sylvestre, mais le principal sacrifice est offert à minuit afin de consacrer à Satan la nouvelle année. Un pasteur m'a dit qu'il a été en contact avec une personne qui a quitté le satanisme où elle occupait une très haute position. Cette personne m'a dit qu'à partir de l'année 2000, Satan avait décrété que toutes les loges sataniques devaient offrir journellement, si possible, un sacrifice humain. Satan est aussi en train d'unifier toutes les organisations qui dépendent de lui, car il sait que son temps est court, car le retour de notre Seigneur est proche en tant que chrétien. Et je termine maintenant. Nous devons nous opposer à Satan et à toutes ses activités, et cela par nos prières. Chers amis, nous allons maintenant terminer ensemble par la prière. Ô Dieu, Créateur, Rédempteur, Père et Sauveur des hommes, Seigneur, qui a promis d'être au milieu de nous lorsque deux ou trois seraient assemblés en ton nom, jette maintenant un regard de compassion et de bonté sur nous qui sommes tes faibles créatures, qui dans cette sainte journée désirons de prier et nous recueillir devant toi. Que l'heureuse influence de cette heure de prière et de méditation se répande sur tout le reste du jour et sur tous ceux qui le suivront. Que nous éprouvions ainsi l'efficace de ta sainte parole, de cette parole plus désirable que l'or, plus douce que le miel, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, de cette sainte parole qui restaure l'âme et donne la sagesse aux simples. Accorde-nous donc la grâce de la comprendre, de l'aimer, d'en faire nos plus chères délices. Oui, ouvre nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions y recevoir ta vérité, tes saintes promesses, que nous ne nous endormions pas dans une funeste sécurité, mais que nous sentions fortement que nous sommes sous le poids d'une condamnation éternelle tant que Jésus-Christ n'est pas notre Sauveur et notre Maître et notre Ami. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois et par ses meurtrissures nous avons la guérison. Ne repoussons donc pas ce salut qu'il nous présente, mais embrassons étroitement la croix de cet adorable Sauveur. Ô notre Dieu, bénis-nous dans nos âmes en les attirant à toi. Bénis nos parents, nos amis, tous les hommes qui sont nos frères et nos sœurs. Que ton saint nom soit glorifié par des milliers de rachetés que la bénédiction repose sur la terre. Fais grâce et pardonne et exauce nos prières, ô Seigneur, par le saint nom et par les mérites de ton cher Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime. Et je le répète avec sincérité, que je vous aime tous de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace avec tout mon amour et je vous embrasse tous sincèrement. Et je vous demande que nous puissions prier les uns pour les autres. Et souvenez-vous que Dieu vous aime et je vous aime de tout mon cœur. À demain pour une toute nouvelle série. Au revoir. Je vous aime vraiment. Arrivederci. Auf Wiedersehen, vaya con Dios.